Les Années-Lumière, édition du 18 juillet 2010. Fredonnez-vous sans y penser une chanson qui joue toute seule dans votre tête? Vous avez peut-être contracté un ver d'oreille. Apprenez comment et pourquoi. Bonjour, ici Sophie-André Blondet en remplacement de Yannick Villedieu. Je suis en compagnie de l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une édition qui va commencer d'ailleurs avec Yannick Villedieu qui est venu mettre la table avant de partir couvrir la conférence mondiale du sida qui commence ce soir à Vienne. Il nous parlera des enjeux de ce 18e rendez-vous bisannuel, lui qui les a tous couverts. Puis au courrier des années-lumière, une question sur l'indice UV, sur l'échelle de cette mesure d'intensité des rayons solaires qui nous parviennent. Et pour terminer la première heure des années-lumière, la chronique, en rappel, Hervé Fischer nous parle de liberté d'expression et de nouveaux médias. Deuxième heure, nous poursuivons notre série estivale qui souligne l'année mondiale de la biodiversité. C'est une série qui s'intitule « 6 milliards d'espèces, une planète ». Cette semaine, Chantal Srivastava, vous passez la bague au doigt des bernaches.
En compagnie de biologistes qui, grâce à ces bagues, peuvent suivre la progression des bernaches, une espèce d'oiseau surabondante.
Ensuite, nous rediffuserons un reportage réalisé à Paris lors d'un séminaire du physico-chimiste Hervé Tis. Tis est l'un des pères de la gastronomie moléculaire et lorsqu'on assiste à l'un de ces séminaires, on ne sait pas trop où cela peut nous mener. On peut facilement passer de la crème fouettée aux techniques pour couper les haricots. C'est ce qui nous est arrivé. Science, éclectisme et humour au menu. Et pour terminer l'émission, Gaëlle Lucia Berdou, l'auteur de la semaine.
Sébastien Dieguez signe « Mots d'artiste, ce que cachent les œuvres », mots M-A-U-X, ou « Comment la maladie influence la création », c'est publié aux éditions Belin pour la science.
Mais tout d'abord, les enjeux de la 18e conférence mondiale du sida, tels que notre animateur Yannick Villedieu est venu nous les décrire avant de s'envoler vers Vienne. Yannick, vous partirez sous peu à la 18e conférence mondiale sur le sida à Vienne, une place où la science a encore de la place pour avancer, mais la conférence s'ouvre quand même encore une fois sur des préoccupations qui sont sociales, qui sont politiques.
Oui, bien sûr, parce que ça a toujours été, d'ailleurs, dans l'histoire du sida, ça a été au cœur vraiment de ces années de lutte. Bien sûr contre la maladie, lutte scientifique, médicale, on peut dire, mais il y a toujours eu une lutte pour le respect des droits humains, le respect des personnes atteintes de VIH ou de sida. Par exemple, les États-Unis qui interdisaient pendant de très nombreuses années l'entrée sur leur territoire des personnes aux personnes atteintes, eh bien, il n'y a pas eu de conférence internationale aux États-Unis depuis 1990.
Ah,
et maintenant que l'interdiction est levée, la prochaine conférence de 2012 aura lieu à Washington. Donc on voit que c'est toujours au cœur de ces préoccupations. On n'a jamais dissocié, d'ailleurs c'est pour ça que le sida est une maladie exemplaire, on n'a jamais dissocié la lutte scientifique médicale de la lutte politique humaine pour les droits humains. Et à Vienne, mardi, il y aura une grande manifestation dans le centre-ville avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, justement encore pour une fois pour réclamer le respect des droits humains des personnes atteintes.
Toujours beaucoup de ces événements et de ces manifestations,
oui,
dans les conférences mondiales.
Toujours, effectivement, parce qu'effectivement c'est une maladie où le social, le politique et le médical sont vraiment imbriqués.
Et la maladie, la progression de l'épidémie, est-ce qu'on a des nouvelles données? Qu'est-ce qu'on en sait maintenant?
Alors, on sait toujours que dans les pays de l'Est, ça fait plusieurs années, on parle de ça. Ça semble pas se régler. Il y a vraiment une épidémie, notamment chez les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse, épidémie hétérosexuelle, donc beaucoup. Il y a la question de l'Afrique. On a parlé d'une certaine stabilisation, peut-être.
On parlait presque de bonnes nouvelles.
Presque de bonnes nouvelles, mais faudrait voir. Les bonnes nouvelles sont en partie attachées au fait qu'on soigne plus de gens, il y a plus d'accès aux médicaments. Mais la grande question, c'est va-t-on avoir un accès qui va durer? Va-t-on financer à long terme les programmes, justement, d'achat de médicaments pour les pays pauvres? C'est toutes des questions qui se posent parce qu'on sait que l'aide internationale, il y a des modes, il y a des effets d'annonce, mais que c'est pas toujours suivi par des résultats. Donc ça va être intéressant de voir, est-ce que effectivement on continue, si vous me permettez, à livrer la marchandise, notamment en Afrique, pour les soins des malades.
Et la crise financière est venue mettre un bémol aussi.
Alors, il y a toujours cette question-là qui arrive, évidemment.
Est-ce qu'il y a quand même des découvertes scientifiques auxquelles on continue à faire écho à la conférence?
Oui, bien sûr. Il y a toute une section de la conférence qui est vraiment très, très, très médicale, pointue, virologie, immunologie, etc. Oui, on a encore des choses. D'ailleurs, les chercheurs disent oui. On a encore du fondamental à faire parce que on n'arrive pas, par exemple la question du vaccin, on n'aura pas d'annonce sur le vaccin.
Ah non.
Si on fait pas de vaccin, c'est parce qu'on n'arrive pas à bien comprendre ce système immunitaire. Donc il y a encore beaucoup fondamental à faire. Puis du côté médical, bien sûr, bon, on annonce toujours le raffinement des trithérapies, des médicaments qu'on met avec ceci ou avec cela. Il y a maintenant, je crois, peut-être une vingtaine de molécules. C'est quand même important. De ce côté-là, ça va bien. On a toujours des nouvelles, donc on va regarder ça la semaine prochaine, mais c'est vraiment du médico-médical à ce moment-là.
Alors, on raffine les médicaments pour aider les gens qui en souffrent, mais on ne prévient pas.
Toujours, on n'a toujours pas de guérison. Il faut faire de la prévention. On réclame des programmes de prévention. Il ne faut pas abandonner la prévention parce que ça reste quand même encore actuellement la seule façon de se sortir de cette épidémie-là.
Yannick, vous les avez toutes couvertes, les conférences mondiales sur le sida. Encore une fois, vous y retournez cette année. Mm-hmm. Mais scientifiquement, ou en tout cas humainement, il y a du nouveau du côté des scientifiques présents.
Oui, il y a eu quand même, depuis la dernière conférence qui était à Mexico en 2008, il y a eu quand même le prix Nobel pour le sida. Donc à Luc Montagnier, à Françoise Barré-Sinoussi, les co-découvreurs, enfin parmi les co-découvreurs du virus du sida en 1983 déjà, donc un prix Nobel qui a pris 25 ans à être annoncé, ce qui est un peu normal parce que fallait du recul, mais donc on aura ce côté-là, on va avoir une conférence nobilisée au fond pour le sida.
Est-ce que vous pensez que ce côté nobilisé de la conférence va rendre les choses un peu plus joyeuses?
Je suis pas sûr que ça va aider à délier les cordons de la bourse, mais au moins on a quelque chose, au moins sur le plan scientifique, on a couronné quand même ces années d'efforts, de recherche, de travail qui valaient vraiment la peine, parce que il y a quand même, par rapport au début, on sait ce qui cause le virus, on sait comment en partie limiter les dégâts, et on espère toujours avoir un vaccin, peut-être un jour.
Alors, on va vous laisser aller couvrir cette conférence, Yannick et Lan. La semaine prochaine, aux Années Lumière, vous allez nous offrir toute la première heure consacrée aussi.
C'est ça, donc un reportage complet sur cette grande semaine.
Bonne semaine, merci beaucoup.
Merci, Sophie.
Boisvert, journaliste au site internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radiotradeunioncanada.ca/lumière et également en diffusion en direct par satellite Sirius et en flux MP3. Vous pouvez aussi emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site internet. Les Années Lumière débordent de l'espace-temps.
Attention, au cours des 20 prochaines minutes, vous pourriez attraper quelque chose. Rien de grave, mais tout de même. Il sera question de vers d'oreille, on les appelle aussi chansons poison ou chansons obsédantes. Il se pourrait donc que certaines petites ritournelles que vous entendrez sous peu vous collent au cerveau. Vous nous envoyez sincèrement désolé, mais tout cela, bien sûr, se fait dans le plus pur intérêt de la science.
Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi,
vous connaissez la chanson. Vous connaissez trop bien la chanson.
Pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson.
En fait, c'est comme si la chanson vous connaissait, qu'elle faisait son chemin depuis votre oreille jusqu'à votre cerveau. Là, elle s'installe dans votre tête et elle ne veut plus s'en aller. Puis elle joue en boucle, sans arrêt.
Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens.
Ça y est, vous avez attrapé un vers d'oreille. Pourquoi cette chanson-là? Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? À l'Université de Montréal, des chercheurs se penchent sur la question. Sylvie Hébert, professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie.
Oui, c'est un sujet d'étude. Le phénomène a été décrit par le passé. Il a été peu étudié, sauf par questionnaire. Avant nous, là, disons que les gens avant nous avaient rapporté que ça touche à peu près 98 à 99 % des gens, là, autant dire tout le monde, à un moment donné. Il y a des gens qui en ont plus, il y a des gens qui en ont moins.
Donc, ici, il y a les bureaux des étudiants.
Beaucoup d'écouteurs ici, hein? On voit des claviers partout, des écouteurs.
Oui, exactement, mais tout le monde travaille avec la musique, donc c'est certain.
Nous sommes au BRAMS, le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son. L'Université de Montréal et l'Université McGill sont affiliées ici pour étudier la cognition musicale, les liens entre le cerveau et la musique.
C'est la stimulation magnétique transcrânienne ici. On peut créer en fait des lésions virtuelles au cerveau avec cet outil-là. Donc ça, c'est très intéressant.
Andréane McNally-Gagnon, qui nous fait visiter les laboratoires, est doctorante au département de psychologie de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les chansons obsédantes, qu'on appelle aussi vers d'oreille ou chansons poison.
Est-ce que ça peut devenir pathologique?
Oui, ben en fait, c'est un peu sur un continuum de normalité, si on veut. La chanson obsédante normale que tout le monde expérimente, ça, c'est la partie normale du phénomène. Mais il y a aussi l'obsession musicale, qu'on appelle, qui a été rapportée un peu dans la littérature. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir un extrait de chanson en tête, en boucle, constamment, mais que ça soit très dérangeant pour la personne. Donc, que ça l'interfère avec son fonctionnement, que vraiment, comme les obsessions dans le trouble obsessionnel compulsif. Puis sur le continuum, ensuite, il y aurait les hallucinations musicales. Donc vraiment, c'est un petit peu la même chose que l'obsession, mais avec l'impression que la musique vient d'ailleurs. Donc qu'elle vient pas de notre tête. Nous, quand on a une chanson en tête, on sait que ça vient de l'intérieur de notre tête.
C'est des salles d'enregistrement.
C'est dans des salles comme ça qu'on fait nos expérimentations, les parties en laboratoire. Au début, en laboratoire, je faisais écouter des extraits, puis je leur demandais de les rechanter. Donc, c'est ici que ça se passait. La seule façon de l'étudier pour l'instant, c'est de le faire de façon explicite, donc de demander soit aux gens de nous décrire ce qui se passe dans leur tête ou de chanter, par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je donnais des petites enregistreuses aux participants, puis là, je leur demandais d'enregistrer leur chanson à chaque fois qu'il y en avait une en tête.
Il est 5:00, début jour 2. Je viens d'avoir un flash. C'est « Ne fais pas ça de Paul Piché ». C'est pas vraiment, je suis pas vraiment en flamme. « Ne fais pas ça, ne va pas sans me dire... »
Donc ça, c'est une façon de le faire. C'est sûr que dans un futur certain, on veut aller en imagerie cérébrale pour voir vraiment quelles régions du cerveau sont activées par le phénomène.
On a l'air de aimer. Grand succès de cette folle comédie musicale. Il est 8:20.
Le but des recherches menées ici n'est pas seulement de savoir quelles chansons vont coller le plus souvent ou le plus longtemps dans les cerveaux des participants. Comme l'explique le professeur Sylvie Hébert, on cherche à comprendre la nature et le contexte de l'apparition des vers d'oreille.
On a voulu un peu savoir la nature de cette chanson obsédante là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est musical? Si une chanson obsédante de Gilles Vigneault vous revient dans la tête, est-ce que vous entendez la voix de Gilles Vigneault, la voix de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est votre propre voix? Est-ce qu'il y a des instruments? Est-ce que c'est fidèle au disque que vous écoutez ou c'est quelque chose d'autre qui est plus abstrait? Est-ce que c'est transposé? Donc toutes les caractéristiques musicales, on a voulu les documenter.
Il est 3:50, je suis au travail, et c'est cela, c'est France Gall avec Ella, 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 tout, 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 tout.
À chaque fois, quelle que soit l'heure, dès qu'une chanson leur venait en tête, les sujets la reproduisaient sur un enregistreur MP3. 1200 productions personnelles ont ainsi été récoltées auprès des participants. Ainsi, Sylvie Hébert et la doctorante Andréane McNally-Gagnon ont pu pousser la recherche et comparer les reproductions spontanées de chansons par des sujets musiciens et non musiciens.
Les chansons précédentes reflètent complètement la culture musicale d'une personne, ce que la personne écoute, ce que la personne pratique dans le cas des musiciens. Ce qui nous a un peu surpris, c'est que dans nos sujets, en tout cas dans nos participants, il n'y avait pas de différence entre les musiciens et non-musiciens en termes de nombre de chansons obsédantes. Il y avait une différence en termes de durée de la chanson. Les musiciens avaient des épisodes plus longs que les non-musiciens.
Il y a une chose qu'on a faite dans la première étude, c'est qu'on a pris les extraits que les participants chantaient sur leurs enregistreuses, puis qu'on les a comparés aux versions originales des chansons, au niveau de la tonalité et du tempo, donc pour voir si ça ressemblait vraiment à la version originale, ce qu'ils avaient en tête.
Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as.
Elle a, elle a, elle a. Tout, 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 tout. C'est je ne sais quoi, elle a tout, 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 tout.
Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est que c'était très proche. Les musiciens étaient légèrement meilleurs que les non-musiciens, ils étaient légèrement plus proches. Mais quand même, c'était à un écart d'environ un ton de la version originale. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la musique, ce qui est assez proche. Puis, au niveau du tempo, vraiment, c'était très proche pour les musiciens et les non-musiciens. Le pourcentage de différence de tempo entre la version originale puis la version chantée, ça rentrait vraiment dans un écart auquel on commence à percevoir les différences de tempo. Donc, on peut dire que c'est très, très semblable, finalement.
Donc, le cerveau est une bonne enregistreuse.
Oui, oui, c'est ça, si on veut. On a comme vraiment une représentation absolue de ce qu'on a entendu. Avant, on pensait que c'était plus seulement la mélodie qu'on se rappelait de ce qu'on entendait, mais finalement, on a comme une image, le cerveau prend une image de ce qu'on entend, puis on s'en rappelle à peu près à la même hauteur qu'on l'a entendu, puis à peu près à la même vitesse.
Ne fais pas ça, ne va pas sans me dire si tu t'en vas, va pas comme ça.
Voilà pour certaines caractéristiques de la reproduction d'une chanson qui jaillit spontanément dans notre cerveau. Mais quelles sont les caractéristiques intrinsèques des chansons les plus obsédantes? Lesquelles s'incrustent plus facilement dans notre cerveau? Andréanne McNally-Gagnon a posé la question à des internautes et colligé le premier palmarès des chansons poison.
We will rock you.
C'était un questionnaire Internet que j'ai fait, donc j'ai regardé dans mon entourage, dans les gens à l'université et tout ça. Je leur ai demandé de me donner c'était quoi leur chanson obsédante. Donc, encore une fois, il y a eu toutes sortes de choses qui sont sorties là-dedans. J'en ai sélectionné 100. Puis j'ai mis des extraits sur Internet, puis je demandais aux participants de coter à quel point ils trouvaient qu'elle était obsédante. Le but de faire ça, en fait, c'était de ramasser donc un pool, si on veut, de chansons que je pourrais utiliser dans mes expériences futures.
Selon le palmarès établi par Andréanne McNally-Gagnon, voici donc les 5 chansons les plus obsédantes. 5e position, Singing in the Rain. 4e place, Life is Life. 3e position, Don't Worry, Be Happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
2e chanson, poison la plus efficace,
I Will Survive.
Il y a plusieurs chansons qui m'ont pas surpris. J'avoue que le numéro 1, ça fait rire les oiseaux. Je suis bien d'accord avec le numéro 1.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils. Ça rajoute les couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Oh, 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 rire les oiseaux.
Est-ce que vous avez trouvé, à force de les étudier, des façons de s'en débarrasser? Comment on fait pour se débarrasser d'une chanson?
Ça faisait partie de nos questions dans le questionnaire. On a eu toutes sortes de trucs, là, de grand-mère et autres. On peut la chanter, on peut essayer de faire autre chose, on peut essayer de la passer à quelqu'un d'autre, mais aucun de ces moyens-là avait l'air vraiment très efficace, malheureusement. Mais en tout cas, si on le trouve, on pourra vous en reparler.
Outre la culture musicale du sujet et les caractéristiques des chansons elles-mêmes, il existe des conditions qui favorisent l'installation d'un ver d'oreille. Selon les travaux menés au Brahms, un cerveau libre, occupé à des tâches peu engageantes, sera plus vulnérable aux chansons poison. Sylvie Hébert.
Nos résultats montrent que c'est souvent des activités un peu ennuyeuses, des choses qui ne nous demandent pas trop d'attention, attendre l'autobus, prendre sa douche, faire le ménage, rien faire. Donc, le cerveau, il est un peu oisif, là. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de tâches sur lesquelles se concentrer. Alors, pouf, il y a une chanson qui surgit.
Andréane McNally-Gagnon.
On a regardé aussi l'état émotionnel des personnes. Je leur demandais comment ils se sentaient quand la chanson est partie, puis comment ils se sentaient après. Donc, en général, la personne était dans un état émotif positif quand la chanson débutait. Mais il y avait aussi des émotions ambiguës. Donc, la personne rapportait des émotions positives et négatives à la fois. Ça, il y en avait beaucoup plus avant qu'après. Donc, c'est comme si la chanson précédente a eu un effet régulateur sur l'émotion.
Burning down the house. Ça, c'est la même tune qu'hier, que j'avais dans la tête hier soir. Je me suis réveillée ce matin, je l'avais dans la tête dans la douche. Là, il est 8 heures, pile.
Je dirais que la caractéristique vraiment de la chanson obsédante, c'est de l'avoir entendue beaucoup, que ça soit sur le moment ou que ça soit dans une autre période de notre vie.
Alors, pour un compositeur, trouver la recette du succès, c'est un peu trouver la recette d'une chanson poison.
Oui, un peu, oui.
Quand on a entre 15 et 25 ans, c'est drôle à dire, mais on dirait qu'on a un espace là, qui est libre, qui est vierge. Puis les chansons qui vont venir s'imprégner à ce moment-là vont avoir tendance à nous coller à la peau toute notre vie. Ce sont les chansons, moi, que j'appelle finalement les trames sonores de nos vies.
Gilles Valiquette a trouvé plus d'une fois la recette pour faire des chansons qui accrochent. Pour lui, à titre d'auteur, compositeur, interprète, et pour les autres, comme réalisateur de disques.
Je me souviens quand j'avais 20 ans, puis je sortais de l'école de musique, beaucoup de mes collègues là-bas, et moi-même d'ailleurs, on rêvait d'avoir une chanson qui pourrait coller de cette façon-là, puis je dirais nous survivre d'une certaine façon.
En étudiant le répertoire de la chanson populaire depuis ses débuts au Québec, des débuts qu'il situe à un succès de Michel Louvain, Gilles Valiquette a dégagé les caractéristiques qui font le succès commercial d'une chanson. Du côté du texte, il faut un thème, un sujet. Sans être poétique, le texte doit aussi en respecter certaines règles. Il faut un hameçon aussi, un élément accrocheur. Il s'agit souvent du titre, mais l'hameçon peut aussi être un élément musical.
Autre chose, cinquième critère, il faut que la chanson soit construite de façon logique. Puis la façon logique dans mon métier, ça veut dire ça, qu'il faut que tu trouves le juste milieu entre amener de nouvelles choses pour ton auditeur, pour le garder intéressé, mais c'est fatigant intellectuellement, toujours des nouvelles choses. Alors à un moment donné, il faut que tu reviennes avec du réchauffé pour laisser reposer un petit peu ton auditeur. Alors dans les chansons classiques qu'on connaît, on va souvent dire qu'un couplet, c'est la partie A, puis le refrain, c'est la partie B. Souvent, on a une troisième partie qu'on appelle le pont. On va l'appeler C pour l'exemple ici. Alors, il y a beaucoup, des milliers de chansons qui sont écrites avec la forme AB, AB, C, BB. Ça, c'est classique. Pour faire une comparaison avec d'autres styles de musique, si je parle du domaine du folklore, par exemple. Folklore, c'est toujours un couplet après un autre, après un autre, après un autre, après un autre. C'est la partie A, partie A, partie A. Partie A, partie A. Alors, il vient à un moment donné que commercialement, c'est tannant. Ça fonctionne dans des fêtes, dans des parties, même en spectacle, mais c'est pas l'œuvre idéale comme locomotive d'une carrière. Alors, c'est pour ça que les chansons de folklore font rarement les têtes de palmarès. D'un autre côté, si on s'en va dans le jazz, par exemple, où on a un thème qui est émis dans la partie A, ensuite de ça, on en a une variation dans le B, puis ensuite de ça, on a une variation du B qui devient un C, puis une variation du C qui devient un E, puis là, ça évolue là-dedans. Mais là, on se rend à des parties E, F, G, puis la réalité, c'est que c'est trop riche pour la majorité des gens qui écoutent. Alors ça, c'est comme le cinquième critère, là. Puis le sixième que j'ajouterais, c'est que quand on regarde le texte comme tel, l'histoire va évoluer. Puis elle a un paroxysme en quelque part. Le paroxysme, c'est quand la conclusion de notre histoire, elle est livrée. Alors là, on pourrait quasiment tracer une courbe. Disons qu'on fait la courbe de notre texte, on met ça de côté. Maintenant, si on regarde celle de notre mélodie, même chose. La mélodie, à un moment donné, elle s'implante, elle évolue, puis là, elle s'élève à un climax, en guillemets, un paroxysme. Puis là aussi, on pourrait tracer une autre courbe de ça. Alors, le défi d'une chanson commerciale, c'est d'avoir les deux courbes à la même place. Puis si, en plus de ça, au paroxysme de ces deux courbes-là qui sont synchronisées, on a notre élément accrocheur, là, on vient de frapper dans le mille.
Chanter, danser, dans les rues d'une ville qui n'existe pas.
Bonjour, comment ça va? Je vous attends. Et croyez-moi, c'est fait aujourd'hui dans mon cœur.
Les études sont en cours pour déterminer les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le cerveau pour que les vers d'oreille s'y installent. Quant à lui, le palmarès continue de nous fournir ses chansons poison, parmi les succès musicaux ou même commerciaux.
Vous, en tête, là, votre chanson poison, c'est quoi?
La maudite annonce de Subway, là, 12 pouces, 5 $, 12 pouces, 5 $. Celle-là, là, je suis plus capable.
Mais au Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, on a d'autres idées. Pour la suite de ses travaux de doctorat en psychologie, Andréane McNally-Gagnon compte trouver les mécanismes qui permettent d'induire des vers d'oreille dans les cerveaux de ses sujets.
Oui, bon, ça c'est la suite évidemment de mes études. C'est une étude que je vais faire cet été. J'ai déjà fait un petit peu dans ma première étude, donc avant que les participants partent avec leur enregistreuse, je leur présentais des extraits de chansons qu'on avait sélectionnées comme étant potentiellement obsédantes. Puis je leur présentais les chansons et je leur demandais de me les chanter finalement, de les chanter le plus proche possible de ce qu'ils avaient entendu. Puis ensuite, si la chanson revenait dans leurs enregistrements, ben je disais qu'il y avait une induction, si on veut, de chansons obsédantes chez eux. Donc, on va essayer d'améliorer la procédure pour que ça soit plus efficace. Là, ça a fonctionné à peu près la moitié des gens dans la première étude. Donc, c'est ça, on va l'améliorer, que ça soit plus efficace pour que, dans un futur quelconque, on puisse étudier vraiment le phénomène en imagerie par résonance magnétique ou un autre type d'imagerie du cerveau.
Donc, induire des chansons poison.
Oui, c'est ce qu'on veut.
Merci.
oui, je sais, c'est pas très gentil.
Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde. Moi, je connais une chanson pour écœurer les gens. Moi, je connais une chanson pour écœurer le monde.
C'est Andréane McNally-Gagnon qui étudie les mécanismes des chansons obsédantes dans notre cerveau et les moyens de nous en refiler. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, le cas d'une espèce trop abondante, la bernèche du Canada.
La bernèche du Canada est un peu un symbole dans l'Amérique du Nord. C'est un peu le retour du printemps qui nous arrive ou le départ à l'automne. Et donc, on va voir une volée de bernèches dans le ciel et on en voit de plus en plus même à proximité des habitations urbaines. Donc, c'est un signe de nature sauvage. Alors qu'à certains endroits aux États-Unis, les oiseaux sont considérés comme des pestes et donc on essaie de se débarrasser de ces populations-là.
C'est l'heure du courrier des années-lumière. Cette semaine, nous avons cueilli sur notre répondeur une question dans l'air du temps.
À propos de l'indice UV, jusqu'à maintenant, il me semble qu'on indiquait l'indice UV ou une prévision d'indice UV sur une échelle qui ne dépassait pas 9. Et là, j'ai entendu 11 ou 12. Alors, est-ce qu'on a changé l'échelle? Merci, au revoir.
L'indice UV se mesure effectivement sur une échelle de 0 à 11, avec toutefois quelques subtilités. Pour nous les expliquer, Gaëlle Lucia Berdou a contacté René Héroux, météorologue en Environnement Canada. Il nous dit d'abord ce qu'est le fameux indice ultraviolet.
Dans le fond, l'indice UV, c'est une mesure de l'intensité de la radiation solaire.
Et comment c'est calculé, ça?
Bien, tout d'abord, il y a 9 stations d'observation situées à plusieurs endroits à travers le pays qui nous fournit une idée de l'épaisseur de la couche d'ozone. Car ce qu'il faut comprendre au tout début, c'est que la couche d'ozone, c'est un gaz présent dans la très haute atmosphère qui a pour rôle de, en quelque sorte, de filtrer la radiation solaire, plus précisément les rayons UV. Or, avec l'amincissement de la couche d'ozone, c'est là que ça pose problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de radiation UV là, nocive, en quelque sorte, qui peut atteindre la surface de la Terre. Donc, il y a des stations d'observation qui mesurent l'épaisseur de la couche d'ozone. On prend cette information-là, on l'intègre dans un modèle qui simule le comportement futur de l'atmosphère et qui nous fournit de l'information sur, justement, l'épaisseur de la couche d'ozone à venir.
Donc, c'est l'élément principal qui fait varier l'indice quand on entend un indice UV de 8, 9.
Oui, exactement. L'épaisseur de la couche d'ozone va faire varier cet indice-là. Il y a aussi d'autres facteurs, comme par exemple la latitude. Plus on est au sud, alors plus l'indice UV sera élevé. Ça a trait évidemment à l'angle que le soleil aura. Si on est au pôle, par exemple, ben là, à ce moment-là, le soleil est beaucoup plus bas à l'horizon, tandis qu'à l'inverse, à l'équateur, ben le soleil sera directement au-dessus de nous. Donc, la latitude a un rôle à jouer. L'altitude, si on est en montagne, à ce moment-là, l'air est beaucoup plus clair, il y a moins de pollution présente, moins de gaz de toutes sortes, donc ça peut influencer et la radiation solaire, le rayonnement sera plus intense. Il y a aussi la réflexion. Si on est sur une plage, par exemple, à ce moment-là, le rayonnement solaire va être réfléchi, que ce soit sur la surface de l'eau, sur le sable, qui est une surface très claire, de couleur claire, donc on a beaucoup plus de rayonnement qui nous atteint.
Et c'est la même chose sur la neige, par exemple?
Sur la neige. Si on est sur la neige et en montagne, alors à ce moment-là, c'est encore pour ça qu'on peut revenir facilement. Même si on est au mois de mars, souvent, on peut revenir avec un coup de soleil si on est allé faire du ski de printemps. Ça s'explique comme ça.
Est-ce que vous donnez l'indice UV l'hiver, justement?
Bien, l'indice UV, il va être donné dans le bulletin météo entre avril et septembre, car c'est à ce moment-là qu'il est le plus élevé. En hiver, c'est que l'indice UV est simplement trop bas. C'est pour ça qu'il n'est pas mentionné dans les prévisions.
Malgré la présence de la neige.
Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un cas exceptionnel. Si on est en montagne, puis qu'il y a de la neige, puis que, évidemment, que c'est au printemps et que l'angle du soleil est beaucoup plus élevé. Mais en hiver, en janvier, attraper un coup de soleil en montagne, c'est beaucoup moins probable.
Donc, cette échelle sert à informer le public des dangers auxquels il peut s'exposer quand il est au soleil. Elle commence à zéro, l'échelle, et elle va jusqu'à combien, finalement?
C'est ça. L'échelle part de zéro et va jusqu'à 11. On dit 11 plus parce que c'est possible à certains endroits, mais à des latitudes beaucoup plus au sud que les nôtres, que ça peut dépasser la valeur de 11. Comme par exemple, si on décortique un petit peu l'échelle, plus le chiffre est élevé, alors à ce moment-là, plus l'intensité de la radiation solaire est élevée et plus le risque est grand. Donc, de 0 à 2, par exemple, c'est considéré comme bas et il n'y a généralement pas de problème. De 3 à 5, c'est modéré. Certaines personnes plus susceptibles, là, qui ont le teint de la peau beaucoup plus clair, à ce moment-là, pourraient commencer à prendre certaines actions là, pour contrer les effets du soleil. 6 et 7, ben, c'est considéré comme élevé. Là, à ce moment-là, il est bon de prendre que ce soit une crème solaire ou d'avoir un chapeau, des manches longues, ce genre de choses-là. Et très élevé, entre 8 et 10, un peu comme qu'on a typiquement au mois de juillet. Et évidemment, quand on est rendu à 11 et plus, ben là, c'est plutôt extrême. Et là, faut vraiment éviter d'aller au soleil.
Et au Canada, c'est possible, ça, d'arriver à 11?
Au Canada, la valeur la plus élevée, c'est de l'ordre, si ma mémoire est bonne, de 10 7.8, je pense, qui avait été enregistré à Toronto. Mais c'est la valeur la plus élevée, là. On n'a pas atteint peut-être pas le 11, mais tout proche.
Et c'est vraiment une échelle qui est basée là sur des facteurs de santé de la peau. Dans le fond, essentiellement, ça a été créé pour que les gens sachent comment se prémunir contre des cancers très fréquents que sont les cancers de la peau.
Effectivement, c'est une échelle qui a été développée en 1992, qui est en accord avec les standards de l'Organisation mondiale de la santé. Car les effets du soleil, c'est ça, les rayons UV, ça a une incidence sur le vieillissement prématuré de la peau, sur le cancer de la peau aussi, aussi pour les yeux, les cataractes peuvent se développer plus facilement, ça peut affecter le système immunitaire. Donc, il y a quand même plusieurs effets nocifs associés à cette radiation solaire.
Merci beaucoup, Monsieur Héroux, pour ces explications.
Je vous en prie.
Le météorologue René Héroux. Vous avez des questions de nature scientifique, vous pouvez les déposer dans notre boîte vocale. Si vous appelez de Montréal, le numéro est le 514-597-6166 et de l'extérieur de la région montréalaise, 1-800-752-9050. Par courriel, lumière@radio-canada.ca. On rappelle maintenant la chronique des années-lumière avec Yannick Villedieu.
La chronique des années-lumière avec Hervé Fischer cette semaine. Bonjour Hervé.
Bonjour Yannick.
Pour nous parler de nouvelles technologies qui ont donné naissance à de nouveaux médias, est-ce que ces nouveaux médias dont on va parler dans quelques secondes, est-ce que ça change vraiment la donne à la nature et à la pratique de l'information? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui.
Oui, et je dois dire que ce qui m'a fait réfléchir, c'est la semaine qu'on a chaque année sur la liberté d'expression, qui est un événement majeur, parce que il y a toujours tellement de journalistes qui sont assassinés, emprisonnés, tellement de répression, que je pense que le problème est d'une grande actualité.
Oui.
Alors, ce que je crois, c'est qu'il faudrait d'abord opposer les anciens et les nouveaux médias.
Oui, les médias conventionnels, évidemment, oui.
Les médias conventionnels, nous sommes actuellement avec la radio.
Oui.
Naturellement, la télévision, les journaux papier, les magazines, le cinéma, bien entendu. Mais les nouveaux médias, c'est par exemple ce que fait Radio-Canada avec le site web. Ce sont des journaux en ligne et puis ce sont des sites web, etc. Alors donc, ce sont deux groupes complètement différents et il y a comme une sorte de basculement à l'heure actuelle de l'un à l'autre. Mm-hmm. Et la question, c'est de savoir, au fond, lequel de ces deux blocs sert le mieux la liberté d'expression et la liberté d'information.
Oui. Dans les médias traditionnels, on peut dire qu'il y a une sorte de, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de contrôle de l'information. On sait ce qu'on veut faire, comment on le fait, pour qui on le fait, et parfois c'est au service de certains intérêts.
Oui, Yannick, vous ne me le faites pas dire. C'est que ce sont des structures lourdes, commerciales, avec des propriétaires qui sont des États ou des gros financiers. Il y a donc des limites, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a des qualités aussi, qui est par exemple une politique éditoriale. Mmh. C'est évident qu'il y a un contrôle aussi de la qualité de l'information et d'éviter des propos haineux, des diffamateurs, etc.
Il y a aussi un professionnalisme de l'information dans ces grandes institutions-là, oui. Mmh.
Donc, il ne faut certainement pas cracher dans la soupe. Ils sont extrêmement importants et bien entendu, il faut espérer qu'ils vont continuer, bien qu'on dise actuellement que c'est une industrie qui est de plus en plus sinistrée.
Il y a des problèmes, effectivement, majeurs.
En tout cas, souhaitons qu'elle les surmonte, mais aussi, regardons les vertus des nouveaux médias.
Alors, les nouveaux médias, on va peut-être un peu les représenter.
Oui, les nouveaux médias,
oui.
Bon, il y en a qui sont, comme j'ai des succursales des médias traditionnels, comme le site web de Radio-Canada. Il y en a qui sont des journaux en ligne, Cyberpresse, Le Devoir, qui ont un site complémentaire avec l'édition papier.
On pourrait dire que ce sont les habits neufs des anciens médias, d'accord?
Oui,
mais
c'est
on veut parler des vraiment nouveaux médias.
Mais les nouveaux, il y en a beaucoup qui sont nés comme des rebelles. Par exemple, nous avons ici au Québec rue Frontenac, qui est lié à la suite d'un lockout de journalistes. Nous avons en France Rue 89, qui est un journal en ligne qui a été créé par Pierre Azic, qui est l'ancien rédacteur en chef adjoint du journal Libé. Nous avons Mediapart en France, qui a été créé par l'ancien directeur du journal Le Monde, en désaccord avec son patron. Donc ce sont des médias contestataires qui pensent qu'il faut faire l'information autrement. Mais il y a aussi tout ce qui est encore plus important à mon sens, tout ce que j'appellerais par opposition aux mass-médias dont on parlait, ce qu'on peut appeler les self-médias.
Les self-médias,
self-médias,
ouais.
Les médias faits par soi-même, les médias spontanéistes, une sorte de spontanéisme libertaire, qui sont des initiatives individuelles extrêmement diversifiée parce que les médias numériques permettent maintenant à tout un chacun non seulement de lire, de consommer de l'information, mais d'en produire et d'en mettre en ligne.
Alors là, on a tous les blogs, les sites web.
C'est énorme. Oui. C'est quasiment des milliards de pages qu'on a maintenant. On a toutes sortes de magazines en ligne faits par une seule personne. On a naturellement tout ce qui est lié à YouTube, à MySpace, tous les médias sociaux.
Twitter, etc.
Les gens qui mettent de l'information sur... Et c'est extrêmement efficace à cause de la contamination virale, comme on dit, c'est-à-dire cette sorte de circulation très rapide de l'information, de blog en blog.
Multiplication.
C'est ça, qui est d'une... On dirait que ce sont des médias très minces, très faibles. Il faut en aider tout petits budgets, mais ils ont un pouvoir de diffusion extrêmement rapide, incroyable dans certains cas.
Oui, et un point tel d'ailleurs que l'expression réseau social, qui normalement ça désignerait le réseau qu'on a entre amis, par exemple, devient vraiment l'expression qui désigne ces médias sociaux-là. Hein,
oui, c'est plus une soirée de bridge.
Oui.
Alors évidemment, là, on a toute une nouvelle dynamique et on a une ubiquité. On a une puissance de diffusion et même souvent on a des médias traditionnels qui reprennent des informations qui sont d'abord passées dans les nouveaux médias, qui sont d'abord passées sur YouTube ou sur un blog.
Et la question qu'on se pose au début, est-ce que ces nouveaux médias-là améliorent la qualité, la liberté de l'information?
Mais oui, c'est ce que j'ose affirmer. Parce qu'effectivement, nous n'avons plus de politique éditoriale. On a éventuellement un peu n'importe quoi. Il n'y a plus le même professionnalisme. Il y a beaucoup d'erreurs. Bon. Mais il y a même toutes sortes de choses qu'on ne voudrait pas voir diffusées. Des propos haineux, diffamatoires, etc. Mais il y a une sorte d'activisme qui passe par tous les ordinateurs. Il y a quand même 1,5 milliard d'ordinateurs branchés Internet sur Internet actuellement. C'est donc un réseau extraordinairement large. Et là, on a cette sorte de ruissellement d'informations, d'abondance d'informations, d'activisme d'informations, où chacun veut, au fond, devenir journaliste de sa planète. Ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant.
Donc, une meilleure circulation d'idées, de projets.
Et même qui contourne tous les contrôles, soit étatiques ou autres, parce que actuellement on peut avoir des gens qui contournent les blocages, les filtrages mis par les gouvernements pour diffuser de l'information clandestine. Ce sont des médias qui peuvent devenir carrément clandestins. Et ça permet une beaucoup plus grande liberté de l'information, peut-être une qualité moins régulière, mais il n'est plus possible aujourd'hui sur notre planète que des informations sur des choses scandaleuses ne circulent pas.
Donc en conclusion, Hervé Fischer, ce qu'on a appelé le cinquième pouvoir, le pouvoir des médias de masse, le cinquième pouvoir est en train d'échapper aux médias de masse et est en train d'être diffus dans la population.
Oui, je pense que oui, sauf qu'évidemment, il y a des effets pervers et il faut quand même les rappeler pour terminer parce que on voit bien que malgré tous les contrôles que les gouvernements, etc., essayent de faire, et on voit bien que souvent c'est des bras de fer, hein, comme voit Google en Chine, mais il y a tellement d'informations, enfin de rumeurs, de diffamations, de criminalité, d'appel à la pédophilie, à la violence. Il y a environ 400 sites repérés qui sont des sites nazis ou fascistes, etc.
Oui, c'est incroyable.
Donc, alors ça, c'est épouvantable.
Donc, encore une fois, Hervé, comme la langue, qui peut être la meilleure et la pire des choses, les nouveaux médias peuvent être la meilleure et la pire des choses. Vous diriez ça, tel un Ésope moderne?
Je ne dirais pas ça, je dis c'est l'homme qui peut être le meilleur ou le pire. Espérons que les médias vont l'aider à devenir meilleur.
Hervé Fischer, je vous remercie beaucoup.
Merci Yannick.
Et voilà, c'est tout pour la première heure des Années Lumière. Ce soir à 18h30 à la télévision de Radio-Canada, à Découverte, on vous propose entre autres sujets les fumées blanches, un phénomène rare, des fois mortel, que le service des incendies de Montréal étudie pour mieux le comprendre. Mais d'ici là, restez des nôtres à la radio. Les Années Lumière se poursuivent après le bulletin de nouvelles. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, bienvenue, ici Sophie André Blondin pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Au menu de cette deuxième heure, la biodiversité avec la poursuite de notre série estivale. Cette semaine, Chantal Srivastava nous mène sur la piste des bernaches du Canada. Ensuite, une rediffusion, celle d'une visite que nous avons faite à l'Université Agro-Paris-Tech dans un séminaire du père de la gastronomie moléculaire, Hervé Tisse. Et pour terminer l'heure, l'auteur de la semaine, Sébastien Dieguez, qui signe le livre « Mots d'artiste, ce que cachent les œuvres », s'est publié aux éditions Belin pour la science. Mais tout d'abord, la série des années-lumière. Milliards d'espèces, une planète. La Terre pourrait compter 6 milliards d'espèces vivantes. Alors, pour souligner l'année mondiale de la biodiversité, nous diffusons tout l'été une série de reportages dans lesquels nous allons à la rencontre des scientifiques qui sont sur le terrain et qui étudient différentes espèces, qui étudient différents habitats. Lorsqu'on parle de biodiversité, on s'inquiète souvent de la disparition de certaines espèces. Mais il arrive aussi parfois qu'une espèce soit trop abondante. C'est le cas de la bernache du Canada, un oiseau dont le biologiste Jean-François Giroux de l'Université du Québec à Montréal a fait sa spécialité. Chantal Srivastava l'a accompagné récemment alors qu'il recensait avec son équipe la population de bernaches sur des îles tout près de Montréal.
Il y en a la pluie pour l'après-midi.
Moi, il n'y en a pas aujourd'hui.
Je vais vous donner les bagues à Mathieu. Avec la... 70 la prochaine.
Chaque année, la fin juin, début juillet, les adultes de bernaches du Canada sont en mue et les jeunes n'ont pas commencé encore à voler, donc on peut les rassembler pour faire notre programme de bagage que l'on fait depuis les 10 dernières années pour déterminer, un, le taux de survie des oiseaux, pour recapturer des jeunes dont on connaît l'âge parce qu'on les a marqués sur leur nid juste à leur départ, et connaître leur croissance durant cette période d'élevage pour comparer entre des habitats, par exemple, qui ont été modifiés par l'homme, des pelouses, des parcs ou des habitats plus naturels le long des rives du fleuve ou des îles. Donc, avec les mesures que nous allons prendre dans quelques instants, ça permet de déterminer la survie et la croissance de ces oiseaux-là.
Ça a l'air de quoi, l'installation et la scène? Si on était ici pour voir, là, si les gens verraient quoi?
Les gens, dans un premier temps, nous avons localisé un groupe de bernaches. Nous avons installé, nous sommes à une douzaine de personnes, chacun à sa tâche. Et nous avons installé des filets en forme d'entonnoir et avec des enclos à l'extrémité, à la fin de l'entonnoir, pour pousser chacun des groupes d'oiseaux qui ont été rassemblés en bateau sur le fleuve. Là, on est à proximité des îles de Boucherville. Il y a le port de Montréal juste en arrière de nous avec les paquebots. Et donc, même dans ce milieu qui est plus ou moins artificiel, on commence à faire des travaux plus de scientifiques et des travaux en nature, disons. Et donc, ces oiseaux-là ont été rassemblés. Dès la capture des oiseaux, on a séparé les jeunes des adultes. Donc, les adultes sont ensemble et les jeunes ont été mis dans des petits enclos en fonction de leur grosseur pour, évidemment, les protéger pour pas qu'ils se piétinent un l'autre. Donc, chacun son petit enclos. Et donc, là, on va procéder bientôt au marquage et à une mesure de chacun de ces oiseaux-là. On les garde. Il y a toujours des enclos qui sont vides. Donc, une fois que l'enclos où on travaille, on met les oiseaux dans l'autre enclos et on peut ainsi de suite faire à la chaîne tous les oiseaux. Ils sont relâchés tout à l'heure, on va tous les relâcher ensemble.
Ça ressemble à quoi une bernache?
C'est comme les oies, ce que souvent les gens vont appeler des outardes. En fait, c'est le nom vernaculaire et les premiers colons qui sont arrivés au pays, ici au Canada, ont observé ces oiseaux-là qui ressemblaient à des outardes d'Europe. Mais en fait, c'est un groupe totalement différent, mais le nom nous est resté. Et donc, c'est la bernache du Canada. Son nom scientifique, c'est Brenta canadensis. Et cette sous-espèce que nous avons devant nous, c'est la sous-espèce maximum, donc c'est la plus grosse, qui va avoir 3-4 kilos pour certains individus. Donc, c'est presque 40 cm de haut et donc avec une envergure de plus d'un mètre, les ailes, lorsque les ailes sont ouvertes. Le plumage est brun, on a la tache blanche traditionnelle sur les joues qui fait la caractéristique des Bernard Jucamina que les gens reconnaissent là, de cette façon-là.
Jeune femelle avec le webtail numéro 46.
Vous êtes rendu dans l'enclos, M. Giroux, qu'est-ce que vous
46.
Faites?
Je vais pouvoir prendre les mesures. Donc là, on est l'équipe. Une première étape consiste à regarder le sexe de l'oiseau, qu'on peut regarder s'il y a la présence ou non d'un pénis par le cloaque. Ensuite, on regarde si l'oiseau a été marqué pendant l'été, avec une petite étiquette de palmure qui a un numéro unique. Donc là, on connaît exactement l'endroit, la date que cet oiseau-là est né. Là, on va prendre différentes mesures, connaître sa croissance. Donc, la première mesure que l'on prend, c'est la mesure de la tête.
De l'arrière de la tête jusqu'au bout du bec.
C'est exact. Donc, pour la bague numéro 40, c'est 83,8 pour la tête. Le culmen, qui est la partie du bec, 36,3. Et le tarse, qui est d'un os de la patte, 76,7. Et finalement, c'est un petit oiseau dont la primaire, la 9e primaire est 0. Donc, elle n'a pas commencé à pousser.
C'est la plume, ça, que vous regardez?
C'est ça, oui. Ouais. On va regarder. Il y en a d'autres qu'on va voir que les plumes, ça pousse à environ 1 cm par jour une fois que c'est parti. Mais ces oiseaux-là, à peu près 20-25 jours. Donc, c'est les petits oiseaux. C'est les derniers qui sont nés de l'année.
Ah, tu en fais un, hein?
Vas-y.
Là, il s'en va dans un cône pour se faire plaisir dans la balance.
42.
Pas la tête, hein? Oui, moi, il n'y a rien à ta tête.
Oui, c'est ça. Ça va, ça arrive.
47, jeune femelle avec web tag numéro 45-93. 45-93. C'est bon?
Le web tag, c'est parce que c'est 85. Des étiquettes de panier. On a toujours dit web tag.
37.1.
Je dis
web.
Excuse-moi, Mathieu, c'est quel
oiseau? Web. 46.
Ça n'a pas de rapport avec l'Internet, là.
Non, web pour panier.
Web, web, c'est comme deux. Des fois, il y a des accents.
0 pour la tête.
96,7.
Attendez, je suis
mélangée.
Annie, qu'elle donne ses oiseaux,
as-tu encore ton... C'est mélangé, je pense. Peut-être
que
tu vas te dire la bague. Moi, je recommence. Alors, la bague 47. Ouais. Je te redonne la tête.
François Giroux, comme biologiste, qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi suivre ces bernaches-là?
Donc, on a une opportunité de pouvoir suivre la colonisation d'un milieu par une espèce qui habituellement va nicher dans le Grand Nord québécois. Et c'est une population qui est dite résidente, quoiqu'elle ne reste pas l'année ici parce que le climat d'hiver est trop rigoureux. Mais aux États-Unis, dans le sud de l'Ontario, les oiseaux vont passer l'année. Cette même sous-espèce qui est dite maxima, donc la bernache du Canada géante. Donc là, on a l'opportunité de suivre l'évolution et de comprendre comment une population s'établit, de comprendre comment les facteurs limitants habituels qu'on leur rencontre dans le Grand Nord, par exemple, sur les sites d'élevage des jeunes, est-ce que c'est les mêmes facteurs qui sont en jeu ici dans le sud où il y a des habitats qui ont été modifiés par l'homme, donc on a des pelouses, des parcs, on a un climat qui est plus doux, moins rigoureux que dans l'Arctique avec la toundra et la taïga. Donc ça nous permet de comparer, de voir les facteurs qu'on a déterminés comme étant importants dans le nord. Est-ce que ces mêmes facteurs-là sont ou ne sont pas limitants ici dans une région plus au sud?
Donc si je comprends bien, Jean-François Giroux, ce qui se passe, c'est que les bernaches sont en train de coloniser la grande région ici, elles sont parties du sud de l'Ontario. Il y en a de plus en plus ici, il y en a énormément dans le sud de l'Ontario. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sait pourquoi ces populations-là viennent s'établir ici et quel impact ça peut avoir?
C'est ce qu'on nous pensons, c'est que l'explosion démographique qui a été observée dans le nord-est des États-Unis, dans le sud de l'Ontario, a fait que le débordement de ces endroits-là, on peut en compter des millions d'individus de bernaches dites résidentes dans le sud de l'Ontario, au nord-est des États-Unis, débordent tout simplement dans nos régions et graduellement viennent s'établir. pourquoi elles sont aussi, ont autant de succès? Dans un premier temps, elles sont nées sur des îles. Ces îles, la majorité des îles ont été construites à partir dans les années 50-60, lors de la construction de la voie maritime. Donc, ce ne sont pas des îles naturelles, ce sont des îles artificielles, d'une part, et où il y a absence de prédateurs terrestres. Souvent, les renards vont être un prédateur et il n'y en aura pas sur les îles ou beaucoup moins. Donc, le succès de l'éducation est très élevé. Deuxièmement, on a observé par nos études que lors de l'élevage des jeunes, durant cette période-là, les oiseaux qui se nourrissent de plantes, sont des herbivores, ceux qui sont élevés sur des milieux dits anthropiques, c'est-à-dire des milieux qui ont été modifiés par l'homme, des pelouses, des parcs, des terres agricoles, vont avoir une meilleure croissance. Avec les mesures que nous prenons en marquant les jeunes lors de leur éclosion, et en les recapturant à 30-40 jours, comme on vient de faire aujourd'hui, ça nous permet de déterminer exactement la croissance, en tenant compte de l'âge de ces oiseaux-là, et la croissance est meilleure. Donc, étant donné que dans le sud du Québec, sud de l'Ontario, de plus en plus d'endroits qui ont été modifiés par l'homme, cette croissance, et donc ultimement la survie des oiseaux, va être meilleure. On a aussi observé, en suivant des oiseaux, que lors de la période de chasse qui se produit en septembre, et qui, dans la région où une niche, la chasse est permise, que les oiseaux quittent la région avant cette ouverture de la chasse, ce qui font qu'ils sont beaucoup moins vulnérables, ils ne sont pas à proximité des chasseurs. Ils vont sur les rivières des Mille-Îles, rivières des Prairies, où la décharge d'armes à feu est interdite, et donc ça augmente encore leur survie.
Ça peut avoir un impact, le fait qu'elles survivent aussi bien, est-ce que ça se fait au détriment d'autres espèces? Est-ce qu'on en a la moindre idée?
Pour les autres espèces, la bernache du Canada, il n'y a pas d'interaction qu'on a pu observer qui pourrait être néfaste. C'est souvent le cas d'espèces qui sont dites surabondantes. On va regarder, un, l'impact que ça peut avoir sur les populations humaines. Est-ce que c'est des nuisances, etc.? Et surtout, en termes de biodiversité, est-ce que ça a des impacts sur les autres espèces? Mais la bernache du Canada, on n'a pas trouvé et on n'a pas observé d'impact sur les autres espèces. Même à l'inverse, on sait que les canards qui vont nicher à proximité de ces bernaches-là vont avoir un effet de protection parce que les bernaches sont assez grosses pour pouvoir, s'il y avait des prédateurs potentiels, devoir les pourchasser. Et les canards et les autres oiseaux qui nichent à proximité peuvent bénéficier de cette protection. Donc, il n'y a pas d'interface ou d'interaction avec d'autres espèces en termes d'effets négatifs. Mais les problèmes des bernaches, surtout au niveau des problèmes avec les humains. Donc, lorsqu'ils sont dans les parcs, c'est des herbivores, donc ils vont produire des grandes quantités de fèces. Elles peuvent être aussi agressives et lorsqu'on sont à proximité avec les jeunes. Et donc, si les gens sont à proximité avec des jeunes enfants ou sur des pistes cyclables, des plages ou des rives où les propriétaires riverains vont avoir des piscines, etc., ne sont pas aussi enthousiastes d'avoir toute cette quantité de fesses. Il y a aussi les terrains de golf qui sont des problèmes, des endroits quand j'ai vu des photos aux États-Unis où les gens peuvent ne pas faire de cours roulés en raison d'une trop grande quantité de bernaches qui sont sur le verre. Il y a aussi le problème avec la problématique des accidents aériens. On s'en souvient que le vol United Airways qui a atterri dans le Hudson, d'urgence, c'était des bernaches du Canada. Et une semaine avant l'accident, on nous avait rapporté des bernaches qui nichaient ici, juste à proximité, à quelques kilomètres de l'endroit où il y a eu l'impact. Donc, il faut comprendre la dynamique, la distribution de ces oiseaux-là pour essayer de réduire. Je pense pas qu'on peut annuler complètement et faire disparaître ces populations-là. C'est pas ce que les gens veulent, mais essayer de trouver une façon de pouvoir cohabiter avec ces populations de bernaches, de maintenir les nombres de façon à ce que on peut en bénéficier par l'observation. Les gens aiment toujours voir... Les bernaches du Canada est un peu un symbole dans l'Amérique du Nord. C'est un peu le retour de la migration, le retour du printemps qui nous arrive ou le départ à l'automne. Et donc, on va voir une volée de bernaches dans le ciel et on en voit de plus en plus même à proximité des habitations urbaines. Donc, c'est un signe de nature sauvage. Alors que à certains endroits aux États-Unis, les oiseaux sont considérés comme des pestes et donc on essaie de se débarrasser. Donc ici, étant donné qu'on est au début, il n'y a pas de problème majeur encore dans le sud du Québec parce que le nombre d'oiseaux est encore limité. Mais avant qu'on arrive à des nombres qui font que l'on a des nuisances qui sont importantes envers les gens, donc on essaie de comprendre. Il y a des expériences de contrôle qui sont faites sur les nids, essayer de réduire le succès reproducteur. Et notre système permet de suivre et de documenter ces méthodes de contrôle de ces populations-là.
Alors, ce projet-là est en cours depuis quelques années, Jean-François Giroux. Si vous aviez à résumer ce que vous avez appris, est-ce que quelque chose de marquant qui peut-être va influencer la façon de gérer les aménagements, de gérer les populations également?
Bien, on sait que la survie des jeunes est probablement excellente pendant l'élevage parce qu'ils bénéficient de ces milieux qui sont modifiés. Donc, les oiseaux qui vont s'alimenter sur les pelouses ou dans les parcs, on connaît que leur croissance qui est supérieure. On sait aussi que les adultes se sauvent dans les endroits où non chassés. Donc, peut-être en termes de contrôle, s'il y avait des opérations à faire, d'essayer de trouver une façon de permettre la chasse aux endroits où c'est interdit présentement, mais de façon très contrôlée, soit avec des dates très précises et des heures très précises, par exemple, pour essayer de limiter la croissance de la population. Présentement, comme j'ai mentionné, c'est pas un problème. La taille de population, on peut cohabiter, mais dans 10 ou 15 ans, quand le nombre aura augmenté, la population augmente à peu près à 30 % par année, là, on peut avoir certains problèmes de gestion et surtout de nuisance. Donc, comprendre comment les oiseaux sont établis ici, donc nous permet de faire des recommandations aux gestionnaires qui, eux, peuvent prendre des mesures de réglementaires pour soit augmenter la chasse, par exemple. D'autre part, on peut, avec notre système, faire des expériences pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a des méthodes plus drastiques, comme empêcher l'éclosion des œufs. Donc, en Ontario et dans le sud des États-Unis, ou le sud-est, nord-est des États-Unis, il y a beaucoup d'arrosage des œufs avec de l'huile minérale pour empêcher les jeunes d'éclore. Et donc, c'est une façon de contrôler. Donc, on a fait cette expérience-là parce qu'on a des îles témoins, des îles expérimentales, on a des oiseaux marqués. On s'est aperçu que la méthode fonctionne, donc il n'y aura pas d'éclosion. Par contre, les oiseaux ont tendance à rester dans la région. Et donc, ça réduit pas le problème. Et ce sont des oiseaux qui vivent très longtemps, de 10 à 15 ans, et donc, il faudrait répéter l'opération pendant des dizaines d'années pour avoir un impact sur la taille de la population. L'arrosage doit être fait à toutes les années. On s'est aperçu que la croissance est arrêtée sur les îles expérimentales ou que nous avions fait, mais c'est peut-être pas la meilleure méthode, du moins, c'est une méthode qui est assez coûteuse de revenir année après année. Par contre, c'est mieux de le faire au début de l'établissement d'une population que d'attendre que le problème soit trop important. Comme dans le cas des oies des neiges, on ne peut pas utiliser ce genre de méthode parce que le nombre d'oiseaux est beaucoup plus grand.
C'est un beau cas, ça, de surabondance qu'on tente d'étudier. Lorsqu'on parle de biodiversité, on s'inquiète souvent de l'érosion. Mais dans ce cas-ci, c'est une problématique qui est tout à fait à l'opposé et qui peut avoir un impact aussi.
C'est exact. Lorsqu'on parle de biodiversité, on parle d'espèces qui sont menacées de disparaître. Et habituellement, il y a un consensus pour ces espèces-là, tant dans la population que chez les chercheurs, à savoir quelles mesures qu'ils doivent prendre, on doit les protéger et comment arriver à augmenter les tailles des populations en protégeant leur habitat ou en faisant de la propagation, la reproduction assistée. Dans le cas des espèces surabondantes, le problème est différent. Parfois, il n'y a pas de consensus dans la population. Il y a des gens qui veulent avoir plus d'oiseaux, d'autres qui veulent avoir moins d'oiseaux. Et aussi, les méthodes pour y arriver à ces contrôles-là ne font pas consensus dans la population. Donc, il faut tenir compte de l'espèce et de ses besoins en termes d'habitat, mais il faut aussi tenir compte des habitudes des humains, soit s'ils nourrissent les oiseaux dans certains cas, comme dans le cas des goélands, par exemple, ou dans le cas des bernaches, où qu'on aménage des milieux qui leur sont plus favorables en milieu riverain. Donc, c'est un dilemme à savoir les besoins et de pondérer ces besoins-là. Et c'est un problème pour les gestionnaires. Et ils ont besoin d'informations scientifiques pour arriver à prendre des décisions, à faire des recommandations pour avoir les meilleures méthodes de contrôle si nécessaire et de permettre cette cohabitation-là. Et donc, avec les données scientifiques, on peut présenter à la population, dire si on n'agit pas, voici le scénario qui va arriver. Si on agit avec cette méthode-là, voilà la réponse qu'il pourrait y avoir sur les populations. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces connaissances-là. Des populations qui sont établies dans le sud de ces bernaches est assez unique et même maintenant, les gens de l'Ontario utilisent notre système pour poser des questions et avec les données qu'on peut fournir, ils peuvent avoir amélioré leur plan de gestion aussi en Ontario.
Jean-François Giroux, je vous remercie infiniment pour l'accueil et pour la visite et pour m'avoir permis de voir comment vous travaillez avec votre équipe et ces bernaches.
C'est moi qui vous remercie.
C'était un reportage de Chantal Srivastava. La semaine prochaine, notre série sur la biodiversité nous permettra de nous arrêter au lac Ledoux, dans la réserve faunique Mastigouche. C'est là que Pierre Magnan et son équipe traquent l'omble de fontaine avec des émetteurs pour documenter non pas la disparition d'une espèce, mais la possible apparition d'une espèce distincte. Servetis, dans un souci d'efficacité louable, sinon délicieux, a déjà suggéré de faire cuire la dinde au lave-vaisselle. Co-fondateur de la gastronomie moléculaire, il soutient qu'il s'agit là d'une discipline scientifique et non d'une mode en restauration. Hervétis scrute les chaudrons à l'échelle de la molécule. Il pose un regard objectif, pragmatique, scientifique sur la cuisine et sur les outils de la cuisine. Avec lui, oubliez les concepts subjectifs comme l'apparence, l'appétence. On a quitté la cuisine pour aller dans le laboratoire. Hervétis est physico-chimiste et depuis 1988, il traque sans relâche nos traditions culinaires pour faire le ménage entre ce qui relève de la croyance ou de la tradition sans fondement et ce qui est scientifiquement vérifiable et reproductible. Il a signé plusieurs livres, plus récemment une réflexion sur son métier intitulée « La sagesse du chimiste » aux éditions L'Œil Neuf. J'ai assisté à l'un de ses séminaires à Paris. Dynamique, intarissable, il est devenu un véritable personnage. Les Américains l'ont décrit récemment à l'occasion de la traduction en anglais de l'un de ses livres comme « Tiger with a PhD », Tigrou avec un doctorat, en référence au personnage du tigre rebondissant dans Winnie the Pooh. Et je suis plutôt d'accord après avoir assisté à ce séminaire. Je vous en propose en rappel des morceaux choisis. Ça se passait à Paris, dans un amphithéâtre de l'université AgroParisTech, où Hervétis dirige l'équipe de gastronomie moléculaire du laboratoire de chimie.
Alors, je suis désolé de vous dire que je crois qu'on est en retard de deux chapitres. Ça, c'est merveilleux.
Je suis fan d'Hervétis. Et comme j'avais envie d'écrire un livre de cuisine, c'est très intéressant cette année, parce que chaque année le séminaire est très différent, mais cette année, comme c'est un séminaire où on décortique bien comment on fait une recette de cuisine, je trouve ça très intéressant et ça m'a donné encore plus envie de finaliser mon livre.
Alors, il y a des gens, bon, les mal intentionnés habituels, qui disent oui, mais enfin tout ça n'est pas neuf, la gastronomie, de toute façon on fait de la science depuis longtemps, est-ce que c'est vraiment si nouveau?
D'accord. L'autre, le terme de gastronomie moléculaire, c'est vous qui l'avez inventé ou c'est...
Oui, avec Nicolas Curti. On avait mis gastronomie moléculaire et physique et puis on a laissé tomber.
C'était quand?
En mars 88.
Mars 88.
La science des aliments, elle s'intéresse aux aliments. Et moi, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un aliment.
Eh bien, moi, je suis chroniqueur culinaire pour un journal à Genève. Et puis, j'ai déjà assisté à des conférences de Hervétis. Et puis, j'ai tous ces bouquins. Et comme je m'intéresse beaucoup à la cuisine, chaque fois que je peux, eh bien, je viens.
Est-ce que la science ajoute du plaisir à la cuisine?
Du savoir. Le savoir acte un plaisir. Non.
Il est un fait que, depuis des siècles, la cuisine accumule des recettes, des machins, que ça soit écrit par les cuisiniers, ou par des jésuites, ou par des journalistes, ou par je ne sais pas qui, c'est un fait. Et c'est un fait que, avant 1980, ou approchant, on a répercuté sans faire le filtre. Et c'est ça la question de la gastronomie populaire, c'est qu'on se dit, bah, tiens, nous avons les moyens intellectuels, matériels d'aller faire ces tests. Nous devons les faire. On ne va pas rebasculer à nos enfants des conneries.
Aloïs Sauvage, j'ai 16 ans.
Et qu'est-ce que vous faites ici?
En fait, on fait un TPE sur la chimie. Enfin, notre problématique, c'est la chimie révolutionne-t-elle la cuisine et le goût? Et donc, on a trouvé intéressant de venir, surtout qu'Hervétis est quand même l'icône dans ce domaine-là. Et donc, voilà.
Est-ce que vous êtes en train de penser que la chimie va révolutionner la cuisine et le goût?
Alors, je pense que la chimie révolutionne la cuisine en tout point. Enfin, puisqu'elle apporte des nouvelles connaissances et elle améliore plein de choses. Après, le goût, ça reste à voir. Enfin, peut-être dans certaines situations, mais dans d'autres, non. Parce que nous, on a fait des expériences. Parfois, c'était pas très bon. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle améliore la cuisine.
Maintenant, je veux commencer par une expérience parce qu'il y en a dans celle qu'on a laissé tomber hier. Il y en a une qui, quand même, me turlupine, c'est celle de la glace. Parce que l'histoire du froid, il est tellement important dans la mayonnaise que bon, c'est sûr que si l'huile est figée, ça va tourner. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une mayonnaise sur glace? Alors, j'ai pris de la glace, donc ça n'a pas de soucis. J'ai pris un récipient métallique parce qu'il conduira mieux le froid, si on peut dire. Des œufs qui sont normaux, il n'y a pas de beurre, il y a même des plumes. Alors, du coup, je sépare le blanc des jaunes. Je vais prendre une mayonnaise à un jaune. Alors, On va la faire comme c'est dit. Donc on commence par battre ce truc-là. Voilà. On ajoute alors les gouttes d'huile, gouttes par gouttes, elles font 1 mg. Voilà.
Mais si c'est cuisine moléculaire qui est intéressante, alors c'est les expériences aussi qui sont...
La science aide à comprendre ce qui se passe.
Oui, voilà.
Comme le coup de la mayonnaise de tout à l'heure.
Tout à fait.
C'est très intéressant.
Oui.
Bon, je peux m'arrêter. Qui vote pas? Bon, je peux m'arrêter. Hein? Bon, alors je m'arrête. Voilà, alors je m'arrête. Donc voilà l'objet. Tu la vois spéciale?
Moi, je suis enseignante en chimie dans un lycée à Lausanne. La cuisine, c'est pour mon plaisir. La science, c'est ma passion. Et puis, les deux vont très bien ensemble.
Alors, on goûte les huiles. Le modèle le plus simple d'une mayonnaise. On va le faire à 2 dimensions. Voilà la flotte. Et supposons que les gouttelettes d'huile soient toutes de la même taille. Je vais les tasser comme ça, dans une sorte de réseau cubique. Si vous prenez ça, vous pouvez calculer la proportion d'huile et d'eau. Alors, quand c'est tassé comme ça, c'est environ 70%. C'est-à-dire que vous avez 70% d'huile et le reste, ça doit être de l'eau, parce qu'il faut de l'eau ici. Hein. Il ne peut pas y avoir rien. Bon, maintenant, vous rappelez que les tailles de gouttelettes ne sont pas de toute taille. Donc, il y en a qui peuvent se mettre ici. Alors, il se trouve que la mayonnaise, quand elle évolue, quand elle est bien tassée, les gouttelettes deviennent plutôt polyédriques, comme ça. Et là, on peut aller jusqu'à 95%. C'est-à-dire qu'il vous faut toujours 5% d'eau. Et voilà pourquoi la béarnaise et l'hollandaise peuvent rater si facilement, parce que vous chauffez tranquille. Il y a de l'eau qu'il faut. Mais l'eau, elle s'évapore quand vous chauffez. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Vous avez franchi le stade des 95%. Et bling, ça tombe.
Je suis en cours de gastronomie moléculaire à l'université de Neuchâtel en Suisse. Et dans le cadre de ce cours, nous avons organisé ce déplacement à Paris pour suivre le cours d'Hermétis. Et on est tout un groupe avec des gens d'horizons différents. Il y a des chimistes, pharmaciens, biologistes, maîtresses d'économie familiale, journalistes, étudiants à l'école hôtelière, etc. Cuisiniers aussi, bien sûr.
Nous sommes presque un peu durs avec les cuisiniers. Moi, je ne suis pas de la partie, donc j'arrive ici un peu en dilettante.
Oui, mais j'ai déjà dit du bien hier. Alors, donc,
oui, mais quand on regarde les recettes de cuisine ou les traités, les extraits que vous donnez, en fait, je vois ces recettes un peu comme... Ça ressemble pour moi à des recettes scientifiques de avant Descartes. Ils décortiquent leur connaissance en fonction de ce qu'ils ont. Vous êtes dressé... avec l'esprit cartésien, thèse, antithèse, synthèse. La théorie est mauvaise parce que je trouve un contre-exemple. Eux, ils ont...
Je dis qu'avant de voir que les gouttelettes, une mayonnaise et des gouttelettes d'huile dans l'eau, on est livré au miracle. Hein. Mais je n'ai pas dit seulement les cuisiniers, je dis le monde entier est livré au miracle. Hein. Je prends les cuisiniers comme étant les meilleurs du public vis-à-vis du fait culinaire. Pas comme étant des minables, etc. Non, ce que je dis, c'est que la cuisine, elle n'a pas fait le boulot de d'essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'on a répété. Ça, c'est critiquable.
Moi, en fait, j'ai rien à voir avec la cuisine. Je suis physicien à la base et je viens vraiment là pour le plaisir. Je cuisine depuis plus longtemps que je fais de la physique. J'ai toujours aimé cet aspect de décortiquage plutôt. Et en fait, là, on a eu toute une théorie sur la mayonnaise. Et par contre, moi, j'ai été baigné dans un contexte où la mayonnaise, justement, était faite d'une certaine manière, ou même la vinaigrette. Et j'ai appris, il n'y a pas tellement longtemps, par un copain, qu'on pouvait tout mixer en bloc et que ça marchait aussi bien. Et en fait, c'est un peu pour ça que ce cours m'intéresse bien, pour tous ces petits on-dit, qui, mine de rien, font quand même partie de notre culture. Donc, à la fois... C'est intéressant d'un point de vue scientifique de savoir comment ça marche. La mayonnaise d'Hervétis est très technique, mais elle est plus très poétique. Et je ne sais pas si elle aura le même goût quelque part. Il y a cette partie-là aussi. Donc là-dessus, il y a vraiment la dualité physique. Le physicien aime beaucoup ce qu'il dit. Les cuisiniers, c'est une autre chose.
Est-ce que le fouet existait déjà à l'époque?
Est-ce que le fouet existait
par rapport au matériel?
Alors, est-ce que le fouet existait déjà à l'époque? J'en sais rien. Il faudrait regarder la crème chantilly, elle était fouettée. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était des fouets en osier. Imaginez que vous prenez des brins d'osier tenus par un lien. Et c'était fait pour fouetter. Au début, on fouettait. Bon. Et puis ensuite, on a, comme ça, on foutait partout, sans doute, j'en sais rien, mais ils ont recourbé le machin, et puis ils ont fouetté. Et on ne fouette pas, pareil si on fouette au sens de fouetter, ou si on fouette au sens de quelque chose, quoi. Et le mot fouet, il est très intéressant, parce que quand on dit « je prends un fouet », qu'est-ce que je fais avec un fouet ? Ben, je peux tourner, mais je peux battre, ben, battre, c'est pas un bon mot, hein. Alors on dit « je fouette », mais fouetter, professionnellement, ça veut rien dire. Et donc, c'est pas un instrument qui est fait pour faire quelque chose. Et cet instrument est idiot, parce qu'il n'est pas fait pour une fonction. Si on voulait battre, il faut un instrument pour battre. Si on veut aérer, il faut un instrument pour foisonner. Si on veut émulsionner, il faut un instrument pour foisonner. Donc si on veut émulsionner, il vaut mieux une sonde à ultrason. Une sonde à ultrason, c'est une sonde qui vibre. Vous la mettez dans la mayonnaise, appuyez sur le bouton, vroom, vous avez votre mayonnaise. Il n'y a pas besoin de fouetter, parce que c'est de l'énergie dépensée pour rien. Battre, ben, c'est pas le problème de battre, c'est le problème de diviser l'huile en gouttelettes. Inversement, dans une crème fouettée, et un émulsionneur, ça ne marcherait pas, parce qu'on ne veut pas émulsionner, on veut foisonner. Mais si on veut foisonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des bulles d'air, et donc injecter des bulles d'air, ben, on injecte à la pompe à vélo, on injecte avec un petit compresseur, on injecte des bulles d'air, quoi. Donc la cuisine, elle n'a pas pensé objectif, elle a pensé réutilisation de trucs qui font que ça marche dans certains cas ou pas. Méthode empirique, comme certains disent. Alors, je ferme ce tableau-là et on peut maintenant attaquer le chapitre numéro 3. On progresse. Ouf. Voilà. Ensuite, le persil en branche. Pour cette affaire-là, j'espère que tout le monde connaît le phénomène de surfusion. Quand un produit est bien propre, même de l'eau bien propre, on peut la refroidir à moins 0 degré sans qu'elle tombe en glace. Donc on refroidit, sans bouger, sans vibration, sans poussière, sans rien. Là, on laisse tomber une petite poussière et blam ! Tout d'un coup, c'est glacé. Il nous faut un déchet bien propre. Voilà. C'est très intéressant, par exemple, dans la pomme, il y a 25% d'air. Dans la poire, c'est une mort de grandeur. On vient de montrer le réseau d'air dans ces fruits. Et on vient de comprendre que les poires se talent plus facilement que les pommes, en particulier parce que les réseaux d'air dans le fruit ne sont pas structurés de la même façon. Alors, je vois mon problème, ben, si on rentre le verre en même temps. 2,21. Ah, pour la réhydratation, c'est passé gagné.
Je crois que j'ai un mortier et un pilon.
Très rapidement, parce que je vais devoir partir moi aussi. Entre la toque et le sarrau, finalement, c'est le sarrau qui parle.
Mais je ne suis pas cuisinier, moi, je ne suis pas cuisinier, pas du tout. Non, je suis chimiste. Hein. Je ne peux parler de ce que je connais, c'est-à-dire la physico-chimie. Simplement, il n'est pas interdit à des physico-chimistes d'être intellectuels, c'est-à-dire d'être des gens qui s'intéressent à la culture. Un intellectuel, ce n'est pas un imbécile qui va se mêler de politique à tout bout de champ. C'est quelqu'un qui réfléchit au sens des choses et qui essaye de donner d'ailleurs du sens. Et la réflexion sur l'édition culinaire, c'est de voir bien comment la science peut s'inscrire dans un mouvement culturel compliqué qui est un objet. La cuisine, c'est, ça n'est pas réductible à un objet technique. Donc si ce n'est pas réductible à un objet technique, il faut faire autre chose.
Et la cuisine, ce n'est pas réductible à un endroit dans une maison ou dans un établissement. La gastronomie moléculaire, ce n'est pas seulement dans une salle de classe et dans un labo, ça se passe partout.
La gastronomie moléculaire, ça se fait dans un labo, en vrai. Après, ça se distribue dans d'autres endroits, mais la production de connaissances, elle se fait plutôt dans un labo. C'est vrai que le test sur la mayonnaise, on aurait pu le faire correctement dans une cuisine. C'est vrai qu'il peut y avoir, et d'ailleurs il y a des ateliers de gastronomie moléculaire dans des lycées hôteliers. Il pourrait y avoir des gens cuisiniers qui font de la gastronomie moléculaire, et non pas de la cuisine moléculaire. C'est possible. Maintenant, s'ils font ça, ils ne cuisineront pas. Hein. Ils feront des explorations scientifiques. Alors la question, c'est scientifique aussi. C'est-à-dire qu'ici, on a mis de la mayonnaise sur de la glace. C'est pas une expérience scientifique, c'est juste un test expérimental. Après, la science, c'est quand même fondée sur l'idée ancrée indissolublement que le monde est écrit en calcul. Ça, c'est Galilée, c'est Bacon. Le monde, il est écrit en langage mathématique et il faut faire des maths. C'est pas de discours poétique, quoi. Voilà, c'est ça.
Mais merci d'avoir accueilli les années-lumière dans votre cours comme ça.
Merci à vous.
C'était Hervé Tisse, physico-chimiste, directeur scientifique de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire de l'Académie des Sciences, membre de l'équipe de gastronomie moléculaire croquée dans son élément à l'Université Agro-ParisTech.
Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
Qu'avaient en commun Van Gogh, Kafka et Alphonse Daudet? Eh bien, ils étaient malades. Et leurs maladies, que ce soit la syphilis ou encore la maniaco-dépression, ont influencé leur œuvre artistique. C'est ce lien entre l'art et la maladie que le neuropsychologue Sébastien Dieguez tente de décortiquer dans son livre « Mots d'artiste, ce que cachent les œuvres » publiées aux éditions Belin pour la science. Une série d'essais sur les artistes plus ou moins consacrés et plus ou moins troublés par la maladie. Gaëlle Lucia Berdoux a joint Sébastien Dieguez dans les studios de nos collègues de la radio suisse romande à Lausanne. Elle lui a d'abord demandé quel est l'intérêt pour un chercheur de se pencher au chevet de ces artistes malades.
Les artistes malades sont intéressants à plusieurs égards parce que, en tant qu'artiste, si vous voulez, par définition, c'est des gens qui ont des aptitudes particulières pour exprimer les choses, hein, qu'ils soient peintres ou écrivains. Ils ont ce talent de raconter. Donc c'est intéressant pour les cliniciens d'avoir des artistes qui décrivent leurs troubles ou qui trouvent un moyen personnel et inhabituel d'en parler aussi les artistes. En tout cas, pour ceux d'entre eux qui sont célèbres, sont généralement très bien documentés, c'est-à-dire que vous savez beaucoup de choses sur eux, vous savez des choses sur leur enfance, sur leur milieu, sur leurs symptômes, etc. Et donc, à ce titre-là, peut-être plus que certains patients qu'on peut voir dans la clinique, on a beaucoup d'informations sur eux, ce qui permet de se faire une idée de l'impact de leur maladie sur leur vie, mais aussi sur leurs œuvres.
Sur leurs œuvres, oui, parce que vous nous parlez aussi beaucoup de la maladie comme source d'inspiration. On apprend, entre autres, qu'il y a une légende sur Shostakovich qui entendait ses œuvres, apparemment, à la faveur d'un éclat d'obus qu'il aurait eu coincé dans la tête.
Oui.
On ne sait pas trop si c'est une légende ou si c'est vrai.
C'est ça. Ouais, c'est un chapitre assez particulier du livre, dans la mesure où c'est plus une sorte d'examen de la réalité de cette idée, hein. Je conclus en disant qu'il n'y a quasiment aucune preuve en faveur de cette idée. C'est plutôt une histoire qui est, comme disait un commentateur à propos de cette histoire, qui disait que c'est une histoire trop belle pour être entièrement mise à la poubelle comme ça.
Bon, et alors il y a des cas qu'on connaît quand même un peu mieux. Par exemple, Marcel Proust, qui avait des problèmes de santé énormes. Alors, est-ce qu'il y a un lien à faire entre ces difficultés et la fameuse Madeleine de Proust?
Alors, ça c'est un peu plus spéculatif. C'est vrai qu'on sait qu'il avait toutes sortes de plaintes et de problèmes médicaux qui étaient difficiles à diagnostiquer comme ça. Donc on a parlé de neurasthénie ou de troubles borderline, qui sont des termes quand même assez flous, qui disent pas grand chose finalement, mais on sait qu'il prenait beaucoup de médicaments, de drogues diverses, de barbiturique, qu'il souffrait d'insomnie, puis que paradoxalement il se plaignait beaucoup de sa mémoire en fait, alors que toute sa gigantesque œuvre tourne essentiellement autour du thème de la mémoire et de la capacité qu'on a à faire ressurgir son passé. Donc l'idée que je propose, qui est un peu spéculative comme ça, c'est que vu les difficultés qu'il avait pour la mémoire, c'est possible qu'il ait théorisé cette idée qu'il existe une mémoire volontaire et une mémoire involontaire. La mémoire involontaire, c'est celle qui fait ressurgir des souvenirs, des morceaux entiers du passé de manière spontanée, généralement associée à à quelque chose d'imprévu. Donc là, l'exemple classique, c'est celui du biscuit, là, de la petite Madeleine, qui fait comme ça remonter des choses qui étaient oubliées et que volontairement, si vous cherchez à vous en rappeler, typiquement, vous n'y arriverez pas, ou alors vous tomberez vous tomberez à côté, ou il y aura des morceaux du passé comme ça qui seront éclipsés, alors que la mémoire involontaire permet de faire sortir plus de choses. Et peut-être, je propose, que c'était lié à ses difficultés à lui, en termes de mémoire, qui était probablement associé à ses maux de tête, à ses insomnies, puis à sa prise de barbiturique, qui ont des effets connus, en fait, néfaste ce qu'il appelait la mémoire volontaire.
Alors, si la maladie peut servir de source d'inspiration, elle devient un transformateur de l'œuvre de certains artistes, qu'on pense à Monet, par exemple, qui avait des gros problèmes de vue, des problèmes de cataracte, et ça, vous le décrivez bien, hein, les couleurs, entre autres, dans ses œuvres ont changé au fil de sa carrière de peintre. Pour d'autres, c'est carrément un révélateur, même un bon coup de pouce, en fait, pour leur carrière d'artiste.
Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est peut-être l'aspect important à retenir, c'est la diversité des effets entre la maladie et l'œuvre. Donc, il y a des artistes confirmés qui peuvent tomber malades. Et alors, chez ceux-là, soit l'œuvre s'arrête entièrement, comme chez Baudelaire, qui avait perdu l'usage du langage. Et donc, pour un poète, c'est un peu embêtant. Il n'a plus rien produit depuis ce moment-là. Mais pour d'autres, ça peut les réorienter vers un nouveau style. Ça peut changer leur style. Monet est un exemple intéressant, mais lui, ce qu'il avait, c'est quelque chose de relativement anodin. C'est une cataracte, c'est une maladie de l'œil. Voilà, c'est une maladie très courante. Et dans le livre, généralement, je m'intéresse à des choses plutôt bizarres, à des choses qui touchent le cerveau et le comportement. Une cataracte, ça peut paraître assez anodin comme ça. Sauf que quand la vue devient brouillée, quand le cristallin s'opacifie, le cerveau voit les choses de manière différente et donc il doit s'y adapter d'une manière ou d'une autre. Et pour un peintre comme Monet, surtout qui avait théorisé presque le mouvement impressionniste où on doit peindre ce qu'on voit à l'heure du jour où on le voit, lui, ce qu'il voyait, c'était pas la vérité du tout, c'était pas la réalité, il s'en rendait très bien compte, c'était une fausse réalité. Il y avait donc le cristallin, enfin la cataracte bloque les couleurs bleues, les verts, les couleurs comme ça dites froides, elle laisse passer essentiellement tout ce qui est rouge et brun et un peu violent comme ça, ce qui était inhabituel pour lui. Donc il s'est mis à utiliser ces couleurs en essayant de les adapter à ce qu'il voyait, puis à ce qu'il savait être faux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier pour un peintre, et c'est ça que j'examine un peu.
Et il nous représentait sa réalité, et ça peut devenir pour les cliniciens, pour les neuropsychologues comme vous aussi, quelque chose de très utile. J'imagine, il y a un autre exemple fascinant dans votre livre qui montre bien comme ça que l'œuvre peut nous en dire long sur la maladie. C'est celui de la maladie d'Alzheimer dont était atteint un peintre qui s'appelle William Uttermolen.
Oui, exactement. Alors Uttermolen, a priori, n'est pas un peintre extrêmement connu, c'est pas Picasso ou Dali. En revanche, la longévité de son œuvre et la manière dont elle s'est achevée est très intéressante pour un clinicien, mais aussi probablement pour un historien de l'art. C'est quelque chose d'assez unique parce que donc c'est un peintre contemporain qui a vécu à un moment où la médecine était déjà bien avancée, dans les années 90 ou 80, je me rappelle plus exactement de la date, mais on lui a diagnostiqué un début de maladie d'Alzheimer. Donc il y avait déjà quelques signes, il était désorienté, il avait des problèmes de mémoire, son comportement changeait un peu. Et les médecins ont pu diagnostiquer cette maladie et donc ils savaient qu'il était condamné à se détériorer, à perdre dans le fond la conscience de soi. Et toute la durée de sa maladie, il a tenté de peindre des autoportraits. Il s'est essentiellement centré sur lui-même. Et alors là, il faut les images, évidemment.
Oui, vous montrez
voir
bien
ce que ça donne.
Oui.
Et on voit son moi, sa conscience de lui-même, littéralement se liquéfier. Il devient méconnaissable. C'est assez pathétique et touchant de voir ses œuvres, notamment la toute dernière qui est faite au crayon, qui est laissée inachevée, où il est complètement méconnaissable, une sorte de gribouillis comme ça au milieu de la toile.
Oui, on reconnaît à peine un visage, en fait.
Exactement, mais c'est très frappant qu'il ait quand même signé cette toile. Et donc, je décris un peu la vie et l'évolution de ce peintre qui a tenté de lutter comme ça contre l'oubli de lui-même, quasiment jusqu'au bout, en fait.
Et c'est quand même des cas assez rares, hein, mais à quel point est-ce que la médecine peut espérer apprendre de cas comme ça?
Il y a plusieurs manières. Donc, la première manière, c'est de mieux comprendre les symptômes des patients. Il se trouve qu'il y a certaines maladies psychiatriques, certaines maladies du cerveau qui sont difficiles à exprimer pour les patients. Notamment, certains symptômes de l'épilepsie ou de la migraine ne sont pas toujours faciles à faire comprendre aux cliniciens. Et là, c'est intéressant de se tourner vers des patients qui ont des talents artistiques, qui peuvent décrire, par exemple, ce qu'ils voient pendant leur crise migraineuse, où je décris aussi une patiente qui a atteint de la maladie de Parkinson, qui avait des hallucinations, elle a pu les peindre et dessiner, ce qui donne une idée aux cliniciens assez directe et assez forte de ce que le patient est en train de vivre. Donc ça, c'est très intéressant pour les cliniciens. Souvent, c'est mieux que des mots, hein, ou que le genre de choses que les patients peuvent dire dans la clinique. Donc de ce côté-là, c'est très intéressant. Mais des fois, ça va même encore plus loin. Il peut y avoir des maladies ou des symptômes de maladies qui n'étaient pas connus et qui ont été popularisés par un artiste. Donc l'exemple classique, c'est le type d'épilepsie dont souffrait Dostoïevski, qui n'était pas spécialement connu à l'époque et qui est devenu très étudié par la suite. C'est les crises dites extatiques ou les crises mystiques, où le patient qui souffre de ce type d'épilepsie sent comme une extase monter en lui, il se sent en harmonie avec l'univers. Et il développe un type de personnalité particulier. Tout ça est très bien décrit, non seulement dans l'œuvre de Dostoïevski, mais aussi dans sa vie. Et les médecins, par la suite, s'en sont beaucoup inspirés et ont pu confirmer par des travaux scientifiques que ce type de crise existait vraiment.
Mais c'est pas simple quand même, parce que Dostoïevski, c'est un exemple. Il y en a d'autres dans votre livre. Je pense à Nietzsche ou à Lewis Carroll, etc. C'est des diagnostics qu'il faut faire a posteriori. En fait, parfois, ce sont des maladies vous avez parlé de gens borderline tout à l'heure. Ce sont des maladies qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas décrites à l'époque. Alors, à quel point est-ce que ce sont des conjectures ou des spéculations qu'on peut faire 50 ou 100 ans plus tard?
Non, alors ça, c'est l'aspect à la fois compliqué, peut-être même délicat et dangereux de l'exercice. Et c'est pas exactement ça que je fais dans le livre. Donc, la pratique du diagnostic rétrospectif, alors vous prenez l'œuvre de quelqu'un, sa biographie, puis vous essayez de trouver de quelle maladie il pouvait souffrir. Effectivement, avec les données dont on dispose actuellement, les nouveaux diagnostics, le langage médical qu'on a maintenant. C'est pas inintéressant de faire ça, mais c'est pas exactement ce que je fais. J'essaie de vraiment prendre les artistes au cas par cas et examiner déjà ce qui a été proposé pour ces artistes. Il y a beaucoup de choses, par exemple, qui ont été écrites sur Van Gogh ou sur Nietzsche. Et je trouve intéressant de regarder aussi dans ce regard médical ce qui semble tenir la route, ce qui semble complètement exagéré. Et c'est un peu ce que je fais. Donc j'examine aussi critiquement les tentatives de spéculation. Mais c'est délicat, oui. Puis je crois qu'à plusieurs reprises dans le livre, j'essaie de me distancier un peu de certaines spéculations qui me semblent un peu excessives. Et aussi d'examiner dans le fond peut-être d'autres approches plus simples, ce qui pourrait sembler plus intéressant, notamment par rapport à l'œuvre elle-même. C'est pas très intéressant dans le fond de savoir de quelle maladie souffrait un artiste si on n'a pas une vision d'ensemble de sa vie et de son œuvre et de son époque. Sinon, c'est un exercice purement gratuit qui n'a pas tellement d'intérêt autrement.
On a l'impression, en lisant tous ces portraits d'artistes qui étaient parfois, il faut le dire, très troublés, que non seulement que leurs œuvres auraient été différentes sans les maladies ou la maladie dont ils souffraient, mais carrément que cette œuvre n'aurait peut-être pas existé ou en tout cas pas attiré autant d'attention. Et on finit par se poser une question qui est quand même centrale dans ce type de réflexion, c'est est-ce que la maladie ou encore la souffrance est indispensable au génie artistique? Alors j'aimerais connaître votre réponse.
La réponse simple, c'est non, probablement pas, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas utile. Si vous voulez, l'idée, ce n'est pas que la maladie elle-même soit utile. Ce qu'il faut, c'est un regard différent sur le monde. Alors il se trouve que certaines maladies donnent le bénéfice au moins de voir les choses différemment, de voir des liens entre des éléments qu'on n'avait pas perçus autrement. Donc à ce titre-là, la maladie permet quand même d'avoir une vision sur le monde, un décentrement qui peut permettre l'acte créatif. Par contre, le problème, c'est évidemment que la maladie peut couper court à la productivité, à toute création. Donc, ce qu'il faut, c'est une sorte de fenêtre, peut-être quelque chose entre la normalité qui permet pas spécialement d'être créatif ou d'être original, et à l'autre pôle, la souffrance qui rend complètement incapable de créer quoi que ce soit. Donc, s'il y a quelque chose entre les deux qui favorise la créativité, ça peut donner des œuvres intéressantes, mais ça ne veut pas dire que tous les artistes devraient nécessairement être malades ou un peu fous pour produire quelque chose d'intéressant. Simplement, ça peut aider.
Donc, à quand un livre sur les artistes originaux mais en bonne santé?
Ben, en fait, j'ai essayé de trouver des artistes qui étaient parfaitement normaux et en bonne santé. C'est pas toujours facile. On peut penser peut-être à Goethe, à Victor Hugo, qui étaient des gens comme ça, qui avaient une santé spectaculaire. Mais même là, vous trouvez des choses étranges et bizarres. Donc si on cherche bien, je pense que ce qui définit un artiste, c'est quelque chose d'inhabituel et d'anormal. Donc, l'aspect intéressant, c'est que ça repousse un peu les limites de ce qui est normal. Et ça remet en cause toute tentative de définition de qui est normal et qui est anormal. C'est une frontière qui est tout le temps en mouvement. Et les artistes, probablement, sont là pour aider à repousser ces frontières.
Je vous remercie beaucoup, Sébastien Dieguez. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Mots d'artiste, ce que cachent les œuvres ». C'est publié aux éditions Belin pour la science. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et voilà, c'est tout pour cette édition des Années-Lumière. L'équipe, le réalisateur Robert Lamarche, le technicien Steve Côté, les journalistes Gaël, Lucia Berdou, Chantal Srivastava et Yannick Villedieu, et la journaliste au site Internet, Lily Boisvert. On aime avoir de vos nouvelles, on aime écouter vos questions de nature scientifique. Vous le faites par téléphone au 514-597-6166. De l'extérieur de la région de Montréal, 1-800-752-9050. Ou par courriel, lumière@radio-canada.com. C'est Sophie-André Blondin qui vous parle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière, édition dont la première heure en entier sera consacrée à la couverture de Yannick Villedieu de la 18e conférence mondiale du SIDA qui s'ouvre ce soir à Vienne. À la semaine prochaine, donc.